France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Un Benoît bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui commence avec un invité de grande classe, Murray Head, le plus français des chanteurs britanniques, à moins que ce ne soit le contraire. 50 ans après Jésus-Christ Superstar et Say It Ain't So, il est de retour au Bataclan et au Trianon. L'occasion d'évoquer une vie étonnante entre musique et cinéma et de replonger dans le Londres des 60s, Murray Head à ce micro dans quelques instants. Mais d'abord, on ne parle que de ça, la rentrée scolaire est dans toutes les conversations, y compris pour la rentrée de cette émission.
Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention, tout d'abord, nous allons lire l'alphabet. Tâchez de faire un effort et surtout pas vous tromper.
A-N-T-O-U.
C'est ça.
U-E-A-I-O.
C'est faux.
A-N-T-O-U.
Ça va.
R-I-I-A-O.
Zéro. Attention, maintenant, tous ensemble on va compter. Allez-y, calmement, et montrez que vous êtes futés.
4 et 4 égale 8.
C'est ça.
5 et 4, 6.
C'est faux.
6 et 4, 10.
Ça va.
7 et 4, 22.
Zéro. Ah non.
Le mouton est blanc.
Très bien, Mandy.
L'éléphant, il est vert.
C'est faux.
Le serpent est gris.
Mais oui.
Le chameau, il est noir.
Zéro.
La rentrée des classes, mais dans une école d'autrefois, puisque c'est en 1953 que l'orchestre de Jacques Ellian enregistrait cette chanson. Et cette même année, 1953, de l'autre côté de la Manche, grandissait un petit garçon qui allait connaître une vie étonnante entre musique et cinéma et qui allait souvent conjuguer le français avec l'anglais. J'ai le plaisir donc d'accueillir ce matin Murray Head.
Mademoiselle remembers too well how once she was belle of the ball. Now the past she sadly recalls. For Mademoiselle lived in grand hotels, ordered clothes by Chanel and Dior. Millionaires queued at her door. Oh, she pleased them and teased them, and she hooked them and squeezed them, until like their empires they'd fall. And she very soon learned that the more love she spurned, the more power she earned, until she was belle of the ball. Oh, Mademoiselle, such a soft Machiavel, would play bagatelle with the hearts of young men as they fell.
mademoiselle, ne restez fidèle qu'à son rêve d'être belle et vendre cher son amour si frais. Elle a offert son corps.
Bonjour Murrayhead.
Bonjour.
Ça se marie bien le français et l'anglais, hein?
Oui, sauf que chaque fois que je chantais en français, les gens en confiance me disent « Ah ouais, mais ça démystifie ».
Ah oui.
Et je ne sais pas quoi répondre, parce qu'en effet, si ça démystifie, ça veut dire qu'en anglais, c'est mystérieux.
C'est plus mystérieux, et puis on en vient les consonances de Chanel, Grand Hotel.
Est-ce que c'est parce que les Français lisent beaucoup,
oui,
et que le livre permet de rêver à d'avoir plus de vision que de voir le cinéma et tout ça?
En tout cas, Murrayhead, vous avez fait des chansons en anglais, des chansons en français et puis des chansons dans les deux langues, comme celle qu'on vient d'entendre, parce que toute votre vie, c'est une vie qui se passe aussi dans les deux langues. Hein.
Oui, oui, absolument.
Depuis même votre enfance, ou déjà tout petit, on en reparlera, vous êtes allé dans les lycées français avant d'aller dans les écoles anglaises.
Oui, oui, c'était la volonté des autres. Hein. Ça,
oui.
C'était à cause de mes parents qui voulaient que je sois bilingue, pas pour des raisons intéressant, mais parce que mes parents sentaient qu'ils parlaient pas assez bien le français, c'est voilà. Tout.
Et finalement, des années après, vous êtes carrément installé.
Oui, c'est sûr que j'ai profité. Voilà. Mais il y avait deux France. Il y avait le France de mes parents et mon France à
votre
moi,
France à vous,
que j'ai découvert après.
Que vous avez découvert après. Alors, cette dualité, ça me fera beaucoup chez vous, Murrayhead, parce qu'il y a le français et il y a l'anglais. On dit quelquefois, oui, le plus anglais des Français, le plus français des Anglais, je sais pas. Et puis, il y a aussi, d'un côté, la chanson, de l'autre, le cinéma. C'est aussi une double vie qui a été un peu toute la vôtre.
Il n'y a que ça. Tout est comme ça. Même les joies sont accompagnées par le noir. Oui, les choses assez dures et difficiles à porter.
Et dans cette division, d'ailleurs, la France est plutôt le pays qui vous regarde comme un chanteur et l'Angleterre plutôt le pays qui vous regarde comme un acteur.
Un peu comme ça. Hein, et un peu comme ça. Mais j'ai essayé de casser ça. Il faut comprendre que à l'époque, quand ça commençait en Angleterre, pour la plupart de la presse, pour les journalistes, quelqu'un qui était acteur était un menteur. Et à l'époque, c'était très important qu'il gardait l'image de l'artiste affamé dans le grenier, quoi. Et que la plupart des chanteurs de l'époque étaient des gens qui ont souffert pour leur art et tout ça, et que les acteurs sont des gens qui gagnent de l'argent et qui sont pas honnêtes, quoi. Ils jouent les rôles des autres. Alors, il y a cette suspicion. C'est con parce que franchement, je n'étais que honnête à moi-même.
Vous avez quand même dit aussi quand même que vous étiez un serial menteur.
Oui.
Alors.
Ça, c'est parce que je passais la journée tout seul en faisant ce que je voulais, qui m'a donné un esprit libre. Les parents revenaient le soir et me posaient des questions sur tout ce que j'avais fait. Et là, je racontais comme un con. Et puis, ils m'ont puni pour cette liberté. Alors, petit à petit, j'ai compris, il fallait mentir.
Et puis, quand vous avez écrit, il y a quelques années, votre autobiographie, vous avez arrêté de mentir, là. On est d'accord.
Ah, oui. C'est venu avec une femme. Ma première femme, c'est normal que j'ai marié quelqu'un qui ressemblait quand même à l'austérité de mes parents et qui ne supportait pas beaucoup de choses. Ce qui fait que après un certain moment, je commençais à lui mentir parce que ça ne servait pas. Et j'ai rencontré ma deuxième femme beaucoup plus tard. Et ça m'a donné la chance de d'essayer d'être honnête.
De renouer avec l'honnêteté.
Oui. Et elle me grondait pas pour des choses. À cause de ça, quelque part, la comédie, ça m'intéressait moins, beaucoup moins.
Alors, on va, Murrayhead, revenir sur quelques-uns de vos succès et puis de vos souvenirs musicaux. Puisqu'on a déjà parlé de vos parents et pour illustrer votre enfance, je pense que votre mère, quand vous étiez tout petit, écoutez un peu ce genre de chanson.
Ça, c'est formidable. ça c'est merveilleux, ça c'est incroyable, du tonnerre de Dieu. Ça c'est magnifique, ça c'est mieux que bon, ça c'est fantastique, une explosion. Mais c'est d'autres choses aussi, de plus doux, de plus tendre aussi, plus cruel et plus âpre aussi, qu'on ne peut définir ainsi. Mais ça c'est formidable, ça c'est merveilleux, ça c'est incroyable, je suis amoureux. Il y a du soleil sur son visage, de l'amour dans son cœur qui bat, comme accroché à son corsage, la vie qui veut rire aux éclats. Il y a ses 20 ans qui vagabondent, entraînant mon cœur sur ses pas, et je répète à tout le monde, et je crie par-dessus les toits. Ça, c'est formidable, ça c'est merveilleux, ça c'est incroyable, du tonnerre de Dieu. Ça, c'est magnifique, ça c'est mieux que bon, ça c'est fantastique, je suis mamie, je suis mon doux, je suis amoureux, amoureux de vous.
Et oui, on a dit que vos parents étaient francophiles, Muriel, et votre mère écoutait Gilbert Bécaud, monsieur ouais. 100 000 volts.
Oui, oui, 100 000 volts. Moi, je pensais que c'était que 20 000 volts. Alors, je savais pas qu'il est allé jusqu'au bout, quoi. Mais il représentait quelque chose. Il était beau aussi. Alors, il représentait pour ma mère quelque chose de...
D'exotique,
une France exotique. Ouais. C'est quelque chose du vraiment du passé. On n'avait pas du Brassens ni du Brel chez nous. Là, c'est clair que c'est un chanteur d'abord. J'ai trouvé en France qu'ils sont obsédés par. C'est un pays littéraire.
Littéraire, les mots.
Et ça veut dire que dès qu'il y a deux mots en français, on commence à le comparer avec Hugo ou Rimbaud, je sais pas. Et la musique souffre. Elle est mise derrière. Elle est un fond, quoi.
Votre mère, donc, qui a épousé votre père le jour du débarquement, ou presque, enfin, le 6 juin 44, le jour
pas
du
là.
Débarquement.
J'étais pas là, je me souviens pas.
Et qui était donc un couple très étonnant, hein, francophile, on l'a dit, vous ont mis au lycée français, elle écoutait Gilbert Bécaud, mais surtout, c'était une actrice, votre mère.
Oui. Oui, elle a joué toute sa vie. Elle jouait plutôt à la maison que sur scène.
Ah, quand même.
Il faut suivre son art. Pour moi, ça m'a rendu confus parce que elle entraînait sa voix avec au moins 4 ou 5 accents par jour. Je l'entendais en écossais, je l'entendais en irlandais, en gallois, en nord de l'Angleterre. Et
c'était très important d'ailleurs ces histoires d'accent que vous racontez dans votre livre. Vos parents voulaient que vous parliez l'anglais pur de la bonne
père.
Société, mais
mon père était obsédé. Il fallait parler le King's English, l'anglais du roi, quoi. Ouais. Mais ça m'a posé que des problèmes parce que quelque part mon père il a perdu sa mère à l'âge de 2 ans, elle était tuée par le IRA, et quelque part il est devenu pour moi plutôt comme un grand-parent qu'un parent. Les punitions qui m'en foutaient, c'était grâce à son école. C'était une discipline d'école, c'était pas
une canne.
Oui, c'est ça. Ouais.
En tout cas, c'est amusant parce que c'est cette famille étrange où vous grandissez en même temps, c'est dans l'Angleterre d'après la guerre qui est un peu pauvre le milieu, il y a des jeunes avec vous, un peu pas un monde de la rue, mais enfin vous avez déjà votre bande très jeune comme ça.
Et... Oui, c'est vrai que j'avais une bande qui me suivait, j'étais plus vieux qu'eux, alors ça me mettait dans une position de contrôle, mais on habitait dans un crésant.
Croissant.
Un croissant, voilà. Tout ça, ça appartenait à la couronne.
Ah oui.
Et la couronne a cherché des gens assez coloré, assez
c'était un monde favorable à l'expression artistique,
oui,
en tout cas.
Exactement.
Voilà. Et assez jeune, alors vous êtes mis à écouter d'un côté du jazz, hein, qu'on écoutait beaucoup à Londres à l'époque, le old jazz, et puis
le aussi... jazz traditionnel.
Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et puis les chanteurs qui venaient d'Amérique, qu'on commençait à écouter beaucoup, et qui étaient diffusés notamment. Je savais pas ça par Radio Luxembourg. Moi, je croyais que Radio Luxembourg c'était seulement en France, mais c'était aussi en Angleterre.
Pas du tout, l'inverse. moi, j'ai signé un contrat, mon premier contrat de disque que j'étais forcé d'amener à mes parents, où ils ont compris que je vivais une vie secrète. Ils savaient pas que je faisais ça. Là, j'étais signé par Radio Luxembourg, qui ont eu un concours. Et ce que j'ai appris un petit peu après, ce qui était fascinant, c'est que Radio Luxembourg était tenu par les Allemands. Et non, par les Alliés, je pense, pour un certain moment. Ouais. Et la personne, le sergent qui était en charge, qui avait une petite hutte devant la maison de Luxembourg, dès que la guerre était finie et s'était déclarée, il a simplement rentré dans l'immeuble, il a pris ça pour lui-même. Et il est devenu le chef de Radio Luxembourg. Il avait quand même le vision de savoir que ça va être dans le futur quelque chose de très important. Et c'était une radio libre, mais comparée avec tous les autres trucs nationaux.
À ce moment-là, donc, vous vouliez devenir plutôt chanteur ou vous pensiez aussi peut-être que vous seriez acteur?
Non, j'ai toujours voulu être chanteur.
Chanteur.
Et c'est parmi mes racines que j'ai compris, beaucoup plus tard, que ça vient de mon grand-père qui tenait un chœur. Il était un grand baryton à l'époque. Il tenait un chœur dans une église dans lequel... Pour je sais pas combien de disques après, j'ai enregistré une chanson qui, à l'époque, ça me donnait des frissons à chanter, mais que j'ai réussi à comprendre que c'était là où mon grand-père entraînait les chœurs.
Voilà, et puis peu de temps après, donc il y a une autre chanson qui a été une des premières que vous avez enregistrées, qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle « Someday Soon », et qui a eu un destin un petit peu étrange, parce que finalement... Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben c'était j'ai fait deux disques avant qui n'ont pas
aucun
réussi,
succès.
Ce qui fait que le contrat était presque fini. J'avais encore une affaire et ils m'ont donné ce monsieur qui était un apprenti directeur artistique qui s'appelait Tim Rice. Et Tim Rice, c'est celui qui a écrit Jésus-Christ Superstar, Evita, etc., etc. Et il était, c'était lui qui a produit Someday Soon. Et Someday Soon, j'ai fait écouter avec plusieurs chansons à deux producteurs. Le producteur et le metteur en scène, c'était deux jumeaux qui ont fait énormément de succès avec leur film en Angleterre qui s'appelle Les Boating Brothers. Ils se moquaient de moi et le costard que je portais, puisque je savais que c'était la musique qui m'intéressait et que ça, je me suis moqué d'eux et ils ont adoré ma confiance et ils ont décidé que je devrais être dans leur film. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé, mais le chanson, elle a vécu un certain moment parce qu'elle représentait le sujet du film qui était l'impuissance environnementale.
Et mais finalement, dans le film, c'est Paul McCartney.
Et finalement, Paul McCartney a écrit la musique et la mienne est devenue appauvrie ou juste à côté. On entendait ma chanson dans une disquaire, en dessous les casques, c'était petit.
Et voici donc la version originale, nous on l'a ressortie pour le
Merci.
Plaisir ce matin.
Baby, I'm so sick of the girl I got now. Just wait a little longer till I give her a round. I'll have you dancing to a new sort of tune. Someday soon. Someday soon. That stupid little woman, well, she's told so many lies. It's got to the stage when she's so easy to despise. She's on the way out and she's gonna realize. Someday soon.
It's gonna happen, baby.
Someday soon. The breakup seems worth waiting for. The war's worth waiting for. I'll give you all you ever wanted. Your best and every wish granted. Well,
ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je ne peux plus, plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain, tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi.
Voilà un enchaînement un peu osé, Muriel. Vous êtes le premier invité de cette émission à me parler de Patricia Carli, que vous évoquez dans votre livre comme une des choses que vous écoutiez dans votre jeunesse londonienne, qui vous avait bien plu dans les chansons françaises de l'époque.
On n'avait pas le choix. On avait des filles au père chez nous qui venaient pour supporter mon petit frère. Et ils amenaient leurs disques avec eux. Alors j'écoutais la France à travers les filles au père. C'était le seul qui m'a branché à l'époque, parce qu'en effet...
C'est pas mal, hein, j'aime bien.
Oui, oui. Et voilà.
Et dans ce Londres des années 60, où donc, vous devenez un jeune homme qui se lance un petit peu dans les arts, mais vous êtes d'abord très préoccupé par les filles, il faut dire, dans votre livre, c'est à toutes les pages, hein, principalement.
Oui, absolument.
Et puis, vous les numérotez même, vous vous souvenez de chacune.
Hein. Oui, ah oui, ça c'est chiant. Ça. J'ai senti qu'il fallait, si jamais il y a une fille qui va le prendre, est-ce que je suis là-dedans?
Et puis, aussi, vous grandissez, sans le savoir, finalement, à l'école, au collège, enfin, dans vos débuts, vous êtes entouré de types qui vont devenir aussi des vedettes de la pop musique, quoi, qui sont tous là un peu, les Yardbirds, Jimmy Page, David Gilmour, tout le monde est là, tout le monde se connaît sans savoir.
Oui. Moi, j'ai gagné le prix que j'ai gagné chez eux, c'est pas un prix, c'est un genre de concours chez Radio Luxembourg à 17 ans. Il y avait John Paul Jones
de Led Zeppelin, voilà.
Ouais,
mais qui n'existait pas encore.
Oui.
Il y avait une certaine simplicité, d'ailleurs, on a l'impression, entre tous ces gars, c'était pas une lutte pour le succès tellement.
Le pub et tout ce qui vient avec, le promo, ça venait après. Les maisons disques ne se sont pas rendues compte de la valeur de. Ils gagnaient leur vie avec le catalogue classique jusqu'à longtemps, pour longtemps. Et ils n'ont pas donné suffisamment d'intérêt ou ni de respect au pop music. Alors ça nous a laissé grandir sans.
C'est ça.
Et les Beatles, leur pouvoir, c'était grâce à l'effet qu'ils ont évolué en même temps que leurs fans. Et ça n'a jamais se passé depuis.
Exactement. Et alors, donc, vous enregistrez quelques chansons. Vous commencez aussi quand même à jouer dans des films. Hein, c'est l'atavisme familial. Parfois, vous êtes souvent, vous racontez avec drôlerie un peu les échecs, parce que vous êtes engagé, puis finalement, au dernier moment, vous êtes remplacé par un autre, etc.
Ouais.
Quantité de catastrophes comme ça.
Ouais. Hein, c'est le catastrophe. C'est bien équilibré entre catastrophe et réussite.
Et puis, là encore, la France, si j'ose dire, pardonnez-moi, ça fait un peu nationaliste, la France arrive avec Brigitte Bardot.
Oui.
Et là, tout d'un coup, vous avez une vraie belle aventure au cinéma qui va compter beaucoup pour vous.
Oui, je pense.
C'est en 1967. Ça s'appelle À cœur joie, le film
de
avec Jean Rochefort.
Oui, de Serge Bourguignon.
Vous avez un rôle.
Oui. C'est un petit rôle.
Mais Brigitte, elle était très gentille avec vous.
Mais Brigitte est arrivée après. Ce qui s'est passé, c'est le premier assistant de ce film, de Tidy Mills, avec les Boltings, a dit « Je travaille avec les Français en ce moment. » Et il tourne en Angleterre et puis il tourne en France. Est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit « Oui, absolument. » Et c'est là que j'ai vu Brigitte et j'ai rencontré. Et pour retrouver la confiance, le fait que j'étais adopté comme anglais pour amener le cours Bardot dans les boîtes.
Vous sortiez Bardot dans les boîtes.
Et les restos.
Et vous arriviez enfin à entrer dans tous les endroits où vous n'aviez pas le droit
Exactement.
D'entrer.
Et ça m'a fait énormément de... pour ma confiance. Et je me suis dit, si c'est clair que si je rate en chanson, je rate en comédie, au moins j'ai quelque chose, c'est clair, à vendre, quoi. C'est juste une question de trouver un moyen de le vendre.
Voilà. Et peu après, alors, est arrivé le temps vraiment des comédies musicales. puisque vous avez d'abord joué sur scène la reprise anglaise de Hair.
Oui, ce qui s'est passé avec Hair, c'était que je promenais, il faisait chaud, je voyais le théâtre de Shaftesbury où ils étaient en train de prendre des auditions, et j'ai rentré avec ma guitare. Et ils m'ont pris encore pour le culot, parce que ils me demandaient de chanter un chanson up-tempo et un truc. Et j'ai mis ma guitare à part, j'ai dit, bon, je vois le noir devant moi, j'ai descendu voir ces mecs qui étaient assis, allongés, et dire, moi je m'appelle Murray, qui êtes-vous? Parce que franchement, un voix qui vient du noir, ça me dit absolument rien.
Et ça leur a plu, ça.
Ils ont adoré. Alors tout de suite, c'était le genre pour R.
Mais fallait jouer tout nu.
Ça, c'était pas un problème. Ce qui était un problème, c'est plutôt, il fallait déshabiller en dessous une parachute en soi. Et l'odeur de 25 personnes ensemble, c'était infernal.
Quelque chose d'atroce.
Bah oui, quelque chose d'énorme. Mais c'était pas ça qui était intéressant. En général, j'accepte, et c'est là que j'apprends des choses qui vont me servir dans la vie.
Voilà.
Je m'en fous du rôle. Le rôle, c'est clair. C'est écrit et on le joue. Mais à part, où on le chante.
Ouais.
Mais c'est où ça m'amène.
Et alors, donc, ça vous amène très rapidement à une autre comédie musicale que là, vous n'avez pas joué sur scène, mais c'est vous qui avez enregistré le disque original, le disque un peu légendaire, on peut dire, de Jésus-Christ Superstar, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est vous qui chantez, donc on l'écoute pour le plaisir, le rôle de
Judas.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Jésus-Christ Superstar 1970, c'est un succès mondial qui évidemment a changé sans doute un peu votre vie.
Oui et non, c'était un succès, c'était pas vraiment un succès en Angleterre.
Mais aux États-Unis, oui.
Mais dès que c'est arrivé aux États-Unis, ils ont décidé, bon, on laisse tomber les Anglais, on s'en tape.
Ils l'ont remonté sur scène, évidemment, avec une autre troupe. Mais il y a quand même cet orchestre formidable derrière vous.
Oui.
C'est qui, en fait?
C'était le Grease Band de Joe Cocker.
Les musiciens de Joe Cocker, voilà, c'est
quand
ça.
Quand on est allé chez l'appartement de Andrew Lloyd Webber et
le
Tim
compositeur,
Rice,
donc.
Le compositeur, ils ont décidé de nous montrer. Moi, j'ai amené mon ami saxophoniste qui était dans le groupe avec lequel on chantait, que Tim Rice connaissait déjà avec Someday Soon. Et il y a une cassette quelque part que je n'ai jamais retrouvée. Où il y a une silence énorme après que, parce que Tim, quand il chante Jesus Christ Superstar.
Et puis Lloyd Webber avec une culture purement classique.
Voilà. Joue ça mais comme même du... pas, même pas. Il savait même pas jouer très bien. Et un silence où je dis, mais vous êtes complètement fou. C'est l'histoire la plus connue du monde. On peut pas faire ça. Tout le monde le sait. Tout le monde a lu le Bible. Alors à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je le fais si vous voulez, juste pour le gag.
Et c'est vous aussi donc qui les avez poussés vers ce côté un peu soul qu'on entend là dans cette chanson avec votre voix de bluesman presque.
Je pense qu'ils le cherchaient.
Ouais, oui.
Ils cherchaient ça. Ils étaient dépassés avec leur conditionnement d'école privée, tout ça. C'était quand même une autre. Mais Jésus-Christ Superstar, c'est quand même, c'était un dévoilement dur. Parce que parmi les gens que j'ai rencontrés, il y avait des Noirs qui m'ont dit « Ah, je pensais que vous étiez Noir !» Et c'était le plus grand compliment de ma vie. J'ai réussi à faire donner cette impression. Mais cinq minutes après, il y a la réalité, la vérité qui te parle en toi-même, qui te dit « Ben, t'es pas Noir !» C'est pas ta culture, il faut trouver autre chose.
En tout cas, vous avez pris le goût de la comédie musicale, puisque vous-même, là, vous avez commencé à écrire une œuvre ambitieuse hein, qui s'appelle Nigel Lived.
Nigel Lived, c'est une...
Pardon, excusez mon accent.
Non,
alors,
non,
là,
mais...
Oh là là, redites-le.
Nigel Lived.
Nigel Lived.
Mais sans réfléchissant sur... C'est une naïveté épouvantable.
Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que Jésus-Christ Superstar ou que R, c'est un album concept. Vous avez commencé par faire un disque d'un spectacle qui finalement n'a pas eu lieu.
Ouais.
Mais ce disque est magnifique. Il est très ambitieux, très osé, très inventif musicalement.
Ouais, sauf que quand
John Hammond,
qui m'a signé, est venu à Londres écouter un peu ce que j'ai fait, il a dit c'est trop indulgent.
Ouais.
Et ça m'a fait du mal parce que j'avais un tel respect pour ce mec. C'était un des plus grands. Et je me suis dit, ben, je l'ai trompé. J'ai été trop ambitieux.
Vous avez mis beaucoup d'énergie, d'ambition, de musicien, de couleur dans ce disque.
Oui,
hein.
Oui.
C'est
oui.
quoi l'histoire de Nigel?
C'était à peu près 70% autobiographique. C'était quelqu'un qui venait à Londres. C'était pour un reflet sur les années 60. Quand on venait du Nord ou d'ailleurs sur Londres, l'Angleterre était obsédée par la classe dans les années 50. Et d'un coup, pour la première fois, d'après le fameux scandale de l'affaire Profumo, Christine Killer et tout ça. Après ça, il y avait un énorme changement parmi la jeunesse et tout ça. Et on était ce qu'on appelait classless, sans classe.
Sans classe.
Ce qui permettait tout le monde de réussir. Mais le problème, c'est que si on réussit vite, on peut descendre aussi vite. Et le disque, c'était d'utiliser le fait qu'il y avait le côté A et le côté B. Le côté A, c'était le succès de cet ingénu. Mais le côté B, il descendait beaucoup plus profondément.
Nigel, Nigel, why did you leave us? We didn't mean to bring you down so far. We only meant to please you. We only meant to tease you. Made us laugh. Nigel, Nigel, I know we loved you. We even tried to treat you like a friend. Our faith in you lost out in the end, the end. Seems on the way. Nigel, Nigel, what are you going to do now? How can you live without our company? You know we were the last word. You know there's no other world but our society. Nigel, Nigel, if you'd asked it, you know we'd have you back again to stay. We're sure you'd want to more than you can say.
Alors, la maison disque, ils m'ont dit qu'ils ont vendu que 9 copies.
9 copies, ça, j'ai pas cru.
C'est une mensonge en elle-même, quoi.
Nigel, Nigel, c'était le titre du morceau, en tout cas 1972, de ce disque magnifique que je recommande, qui est ressorti en 2017.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
Voilà, qui est votre grande œuvre méconnue.
Oui, oui, exactement. Mais bon, j'ai accepté que ça vendait 9 copies et je me suis dit, bon, il faut trouver quelque chose d'autre à
alors,
faire.
Alors, c'est ça. Alors, Muriette, 3 ans après, tout d'un coup, vous sortez un tube immense, notamment en France, mais pas seulement, Say It Ain't So, et puis un album qui porte le même titre avec d'autres succès dedans. Tout d'un coup, voilà, ça arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est arrivé ce disque, ce morceau?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que après Nigel, j'ai décidé de prendre une genre de retraite. Je suis parti vivre à la campagne
dans le Pays de Galles où il pleut tout le temps.
Ouais, voilà. Au moins sévère. Mais ce qui était dit. Après ce que j'ai vécu avec Jésus-Christ Superstar, les Noirs qui me disaient qu'ils pensaient que j'étais noir, j'ai décidé quand même qu'il fallait trouver moi-même. Et j'ai utilisé le GAL pour travailler à la maison, voir un peu qui j'étais. Et pour comprendre, il y avait quelque part une voix enterrée en moi qui n'était pas comme Nigel et tout ça, qu'il fallait chercher. Et en même temps, je regardais un programme à la télé qui parlait de Richard Nixon et tous. Et c'était un présentateur anglais qui cherchait parmi les Américains pour comprendre pourquoi les Américains tenaient toujours à ce mec après tout ce qu'on a prouvé au niveau des mensonges, de Watergate et tout ça. C'est un peu comme Joe Jackson, Shoeless Joe Jackson dans les années 20 qui a fait tomber son équipe de baseball pour de l'argent. Et il y avait des enfants qui chantaient autour du arène pour des mois et des mois après. Dis-nous que c'est pas vrai, Joe.
Voilà, alors, ça c'est voilà. Les paroles de la chanson.
Hein. Oui, voilà. Et c'est parti de là.
N'en déplaise à une journaliste qui a cru que c'était une chanson sur Joseph Staline.
Ah oui,
une journaliste qui
elle s'est trompée, alors au lieu d'admettre qu'elle s'est trompée, elle fait tout un article et on lui fait écouter l'album en pensant qu'elle va aimer ça, et elle a détruit l'album. Et le seul autre commentaire à l'époque, c'était un journaliste qui disait « Say it ain't so, it ain't so ». C'était tout ce qu'il a écrit. Dis-moi que c'est pas vrai,
ça,
c'est pas vrai. Voilà, bon.
Mais il y a aussi, il faut dire, dans l'album qui porte le nom, il y a aussi un autre grand succès, Never.
Never Even Thought, qui quelqu'un a piqué pour un pub, pour les montres Seiko. Et j'avais des amis qui me disaient, on voit un film avec ta musique sur le grand écran, on voit la télé, tout ça. J'ai dit, bon, on va aller voir Seiko pour voir ce qui s'est passé avec l'argent. Ils ont dit, on a déjà payé, on a téléphoné la compagnie était en faillite. Elle a dit, si vous allez faire quelque chose, vous pourrez répondre à ces 500 lettres qui disent, on veut savoir d'où vient cette musique. Et voilà, on a un phonogramme a sorti comme simple, et ça c'était le commencement de mon amour avec la France.
On va d'ailleurs y revenir, mais on va écouter d'abord voilà, un peu de ces deux magnifiques chansons.
Never even thought it could happen to me. Maybe I've been blind, only others can see I'm in love. Do I keep it to myself or should I let her know I'm in love? Do I nurse it in my heart, hold it back in my hands, hide it all inside, I fall down in disguise, I'm in love. Have I gotta play games even
Murrayhead en 1975, cette chanson que tout le monde connaît. Ça vous agace pas d'ailleurs parfois un peu là qu'elle aurait pris trop d'importance, cette chanson, par rapport à tout le reste?
Non, parce qu'ils n'ont jamais compris les paroles. J'attaque cette chanson pour la 100 millième fois en concert, en sachant qu'ils n'ont pas compris, et que peut-être ça me permet l'orage que j'avais quand je l'ai chanté à l'époque.
Donc c'est un succès dont vous êtes pleinement heureux. Non, parce que parfois, quand on a une chanson qui prend toute la place et qu'on se dit toujours le chanteur de Say It and So.
C'est vrai que, qu'un journaliste autre jour m'a proposé que peut-être la chanson est devenue plus grand que moi et que c'est... Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en tape de tout ça. De pouvoir chanter encore à 77 ans, c'est énorme.
Vraiment 70?
Bah oui,
77,
oui, oui, hein. Oui, bah, comment est-ce que je pourrais raconter toute cette histoire-là si je n'ai pas vécu?
Paradoxe encore de votre vie, c'est toujours cette présence de la France, parce que ça a été vraiment le pays qui a lancé la chanson, ou qui l'a le mieux accueilli d'emblée. Hein.
Ouais, bah vraiment. Moi j'y vais où ça marche, quoi. C'est normal.
Tout de suite ça a pris ici, mais plus qu'en Angleterre ou aux États-Unis.
Oui, mais ce qui est bien, c'est que même si je compte sur les journalistes et les télés et les radios et tout ça, j'en ai pas eu beaucoup parce que pour la plupart, j'ai pas réussi en Angleterre suffisamment pour en parler. Alors, mais le public français m'a ouvert les bras
tout de suite.
Et ça m'a permis de pouvoir leur parler et de garder une objectivité que très peu de gens peuvent se permettre. Et c'est beau, on me laisse dire des choses où on ne laisserait jamais un Français les dire.
J'évoque quelques noms qui se rattachent aussi à votre histoire française, Murrayhead, dans les années suivantes. Il y a par exemple Molinaro, l'excellent cinéaste merveilleux, avec qui vous avez tourné.
Oui, j'ai tourné La Mandarine et puis fait de la musique pour À gauche en sortant de l'ascenseur. Ouais. Et puis,
Je citerai aussi volontiers, on reste dans le monde du cinéma, mais il était aussi chanteur et ça n'a pas pris comme il aurait voulu, Patrick Devers.
Ça, c'est une autre histoire. Un ami à nous a décidé de faire un petit court-métrage. Et moi, un ami qui s'appelle Cameron Watson et Patrick et Christophe ont joué le groupe ensemble dans ce petit film. Et c'est là où j'ai rencontré Patrick et on avait beaucoup de choses en commun.
Mais qui a souffert lui aussi un peu des étiquettes qu'on vous porte et qui faisait qu'il ne pouvait pas être reconnu comme musicien, par exemple.
C'était épouvantable parce qu'il jouait vachement bien, il jouait le piano et il avait autant de choses à dire que tous les autres au niveau de présentation et de composition. Et on s'entendait bien, on faisait des bœufs ensemble. Mais le presse française ne lui a pas permis.
Un dernier titre français, mais alors qui a eu beaucoup de succès, mais ça vous avez moins aimé, c'était le film, enfin fait en Angleterre, je crois d'ailleurs, sur Madame Claude.
Ah oui, oui, oui. Oui, c'est autre chose.
Ça vous a pas...
Ben, je sais pas, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire là-dessus. C'est juste... À l'époque, vous voyez ça comme véhicule pour montrer quelque chose de plus sérieux que Emmanuel, quoi, du soft porn. Et en vérité, c'était intéressant comme histoire, mais les producteurs n'avaient pas le même besoin, quoi. Bon, il y a des histoires formidables là-dessus, mais je ne vais pas les raconter maintenant parce qu'on n'a pas le temps.
Murrayhead, je voudrais aussi maintenant qu'on écoute encore deux chansons avant de se quitter parce que voilà, il nous reste un petit peu de temps. La première, c'est une chanson en anglais. Vous nous en dites juste quelques mots, c'est Grace.
Ben ça, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma fille quand c'était la première fois.
En 1982.
Oui, j'avais un enfant et je le regardais dormir dans son lit avec un peu de lumière sur sa figure et ça m'a touché énormément et c'est un des chansons les plus profondes de mon catalogue. C'est quelque chose de tout à fait personnel et je suis très fier de l'avoir enregistré, c'est tout.
The light in the hallway was shining into the dark and long. It lit
picked up her face on the pillow, asleep and at peace with the moon. I sat watching thoughts passing through her, from the innocent to the serene. I found myself talking quite softly of all my most intimate dreams. So many changes of feeling, from yearning to being ignored.
Grace by Murray Head en 1982. Vous êtes mon invité ce matin et on est très heureux de vous recevoir pour la rentrée de l'émission. Malheureusement, il nous reste peu de temps, mais j'aurais pas voulu qu'on se quitte sans dire quelques mots du Québec, de Luc Plamondon,
ouais.
Un autre pays de votre cœur, où ça l'a été à plusieurs reprises en tout cas.
Ouais. Mais dans le cas de Luc, je l'ai rencontré dans un théâtre où il venait de voir les nouvelles chansons de Barbara. On s'est parlé petit à petit. Quand je suis arrivé en Québec, il m'a fait regarder Starmania et puis on se voyait encore. Et je me suis dit, bon, bah, si j'ai jamais des chansons à faire en français,
faut
que ce soit avec lui. Parce que ouais. Il faut savoir que si quelqu'un en France, un Français, décide de faire une version de tes chansons, il gagne que 10% si c'est une traduction. Mais si c'est une adaptation, là, il gagne 50%. Ça veut dire que ça va être une autre histoire complètement. Alors, je me suis dit, s'il faut que ça soit une adaptation, quand même, il faut que ça soit quelque chose de profond et assez beau. Et il a fait deux. Il a fait Les Enfants qui jouent, qui était très fort. Je l'avais même vu quand j'étais en train de l'enregistrer là-bas au Québec. Je l'ai vu pleurer. Et j'ai compris que c'était un sujet vachement proche de lui. Et la deuxième, c'était un truc, avec un duo que je faisais avec Marie-Carmen.
Marie-Carmen, voilà.
Qui s'appelait Un homme et une femme. Et puis, bon, j'ai rencontré Marie-Carmen et on a, le deal était que elle pouvait avoir comme succès là-bas au Québec, ou l'inverse. Elle pouvait avoir ça, moi je pouvais avoir ça au Québec et elle pouvait l'avoir en France.
En France.
Et on a fait le promo ensemble et c'était très intéressant.
Je cherchais quelque part où accrocher ma peau. J'espérais trouver sur mon chemin une femme devant qui j'enlèverais mon chapeau, une femme qui me voudrait du bien.
J'attendais au hasard l'homme de la dernière chance, un homme qui viendrait de loin et qui m'emporterait au milieu d'une danse et qui détournerait mon destin.
Quand j'ai poussé la porte de ce bar clandestin où les nuits sont plus longues que les jours, j'ai croisé ton regard solitaire dans un coin, un regard qui criait au secours.
Murred, version française, donc avec Plamondon pour les paroles, Marie, Carmen qui chante avec vous, une femme, un homme. Vous chanterez d'ailleurs prochainement là, donc au Trianon et au Bataclan, oui. En français et en anglais.
Je sais pas, on va voir quand j'arrive, je sais pas.
Ah oui, vous aimez bien.
J'étais tellement fier d'apprendre que Mick Jagger décidait les chansons qu'il allait faire sur
moment.
Le set. Une demi-heure avant d'aller sur scène.
Ah, d'accord.
Et oui, mais c'est la même chose. Il faut qu'on sent la salle. Il y a tellement de choses qui jouent là-dedans. Alors, je vais voir. Je sais que ça va être différent. Peut-être même les trois soirs, ça va être différent chaque soir.
Le 16 et le 17 septembre.
Je sais que ma fille va venir le dimanche, le 7, 17.
Et puis le 19 au Bataclan.
Oui. Voilà.
Avec vos musiciens ?
Oui, avec mes musiciens, comme toujours d'ailleurs, et quelques petites surprises ouais. qu'on essaie de monter maintenant. Alors.
Voilà, on va se rendre tous avec plaisir pour entendre le mot rétrospective, c'est peut-être un peu sérieux, non ?
En vrai, aujourd'hui, on n'a pas de choix, il faut que ce soit nostalgique,
ouais.
Vu que la plupart des gens qui vont venir sont au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins que moi, mais quand même, d'un certain âge, alors il faut que ça corresponde. Et aujourd'hui, on a tellement besoin de nostalgie ou de penser à l'innocence de notre jeunesse et tout ça, parce que on vit dans une époque trop dure.
Trop dure. Voilà, on vient plutôt vous écouter pour le plaisir de la poésie et aussi du rythme, parce que tiens, je voudrais finir avec un autre grand succès que vous avez eu en 1984. C'était encore pour un projet de comédie musicale avec ABBA.
Oui.
Ça s'appelle One Night in Bangkok.
Ah oui, ça fait partie du comédie musicale Chess.
Voilà.
C'est un sujet sérieux.
Vous parlez, vous rappez, alors que c'était le début.
Moi, là, ça ouvre la deuxième acte du comédie musicale où je viens de résigner, de pas prendre ma retraite, mais j'échange mon rôle comme joueur d'échecs pour devenir présentateur de ce cirque de joueurs d'échecs qui promène le monde entier et que ça tombe sur Bangkok, qui est quand même une ville connue pour autre chose. Alors c'est là le jeu entre le charnel et l'intellectuel. Et le chanson chante là-dessus.
Et vous avez valu beaucoup de succès. Hein.
Oui, pas mal. C'est numéro 1 dans 10 ou 12 pays voilà. Mondialement. Alors oui, c'était la première rap blanche, je pense.
Oui, voilà. Mm. Chanté par vous, donc parler plutôt par vous,
oui.
Rythmé, scandé.
Moi, ouais.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Murray.
Merci de cette invitation.
Et à bientôt, j'espère.
Absolument.
Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The crème de la crème of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free.
One Night in Bangkok, c'était une chanson interprétée par Murray Head qui était mon invité ce matin. Et vous pourrez donc le retrouver les 16 et 17 septembre sur la scène du Trianon. Et puis le 19 septembre prochain, ce sera au Bataclan. Et pour terminer cette émission, moi je vous propose une ravissante petite polka de monsieur Émile Waldteufel, Prestissimo. Prestissimo, un galop d'Émile Waldteufel par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo sous la direction de Willy Boskowski. Et la semaine prochaine, justement, eh bien, c'est la musique du Second Empire qui sera à l'honneur dans Étonnez-moi, Benoît, avec mes deux invités, Laure Schnapper et Alexandre Dradvicki. Ainsi s'achève cette première émission de la rentrée, toujours préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Léonide Makoff, réalisation David Travailleur. On se retrouve donc samedi prochain pour le numéro 2. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end à tous. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.